Alors, ce matin, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quelle belle promesse! Est-ce que nous mesurons vraiment cette relation nouvelle que nous avons avec notre Père, puisque c'est la fête des Pères, donc ça tombe bien, par le Christ, qui nous a non seulement accordé le pardon de nos péchés, délivré de la culpabilité et de l'esclavage du péché, mais qui nous fait rentrer aussi dans une nouvelle relation avec Dieu. Ça, il n'y a aucune religion qui promet ça, qui promet à quelqu'un qu'il va désormais avoir un nouveau statut. Il ne sera plus un esclave, il ne sera plus un bon à rien considéré par les hommes comme n'étant d'aucune utilité. Mais du coup, la divinité l'accueille, Dieu l'accueille comme un fils et une fille de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Quel privilège, mes frères et sœurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux vous appeler frères et sœurs. Et que vous, vous pouvez m'appeler frère. Est-ce que nous mesurons vraiment cette nouvelle relation que nous avons désormais avec Dieu, ce nouveau statut? C'est quelque chose, enfin, je ne sais pas si ici il y a des gens qui ont été adoptés, je ne crois pas. Enfin, peut-être que j'oublie quelqu'un, je ne sais rien. Mais c'est quand même rentrer dans une famille. Ouais, tu peux un peu baisser, ouais. Tu rentres dans une famille, tu n'en avais pas, ou je ne sais pas. Puis tout d'un coup, voilà. Tu as un papa et une maman, tes frères et sœurs, un nouveau cadre, et surtout tu as un statut. On te donne des garanties, puisque tu as été adopté, comme quoi tu peux hériter, enfin, bon, l'héritage promis. Hein. C'est ça, hein. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, je voudrais, avant de rentrer un peu plus dans le détail, d'abord donner quelques définitions. Très simple. Quand on parle du salut ou de la rédemption, c'est des mots finalement dont on ne sait pas toujours trop qu'est-ce qu'on met dedans. Le salut, si vous allez dans certains endroits, c'est ça. Hein, voilà. Le salut, voilà, je te salue. Ça veut, pour beaucoup de gens, je ne sais pas trop ce que ça représente. En tout cas, le salut... C'est un paquet où il y a beaucoup de choses. D'abord, ça nous parle de la régénération. Ce n'est pas de ça dont je vais parler, mais je veux juste montrer le lien entre l'adoption, justement, et le salut. Donc, ça nous parle de la régénération qui nous donne une nouvelle vie. Régénérer. Quand on génère quelqu'un, on donne la vie. Hein. Un géniteur donne la vie. Régénérer, c'est ce que la Bible appelle... dans Jean 3, la nouvelle naissance. Ça fait partie du salut. Une nouvelle vie que nous possédons dès maintenant. Ce n'est pas une vie que nous aurons plus tard, c'est une vie que nous possédons dès maintenant, la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'y a pas écrit « celui qui croit au Fils aura la vie éternelle ». Il a la vie, nous l'avons déjà. C'est la régénération. La justification, deuxième point, la justification qui nous donne un nouveau, vous remarquerez toujours le mot nouveau, un nouveau statut légal devant Dieu. C'est-à-dire que désormais, nous ne sommes plus sous la condamnation. Désormais, Dieu nous regarde au travers de la justice du Christ. Et désormais, nous nous savons donc plus sous ce poids, cette condamnation. Dieu délivre le pécheur de la prison où il était, qui le condamnait à la peine éternelle, finalement. Nous pouvons sortir du tribunal céleste avec la déclaration que nous sommes justifiés. Plus personne ne peut nous condamner. Et puis l'adoption, qui nous donne une nouvelle famille. Elle nous établit fils et fille de Dieu. Fils et fille de Dieu. La différence qu'il y a entre la justification et l'adoption, c'est que dans la justification, la justice du Christ nous est imputée, elle nous est donnée, elle est mise sur notre compte, nous le savons. C'est un point théorique, mais néanmoins véritable quand on dit théorique, mais on ne voit pas forcément toujours quelles sont les implications. Par contre, l'adoption, on le comprend mieux parce que ça une analogie, une comparaison avec une situation qu'on peut vivre dans la vie humaine, dans les sociétés. La justification nous met en face du Dieu juge qui nous acquitte. Désormais, l'adoption, elle, nous fait entrer dans la famille de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes reçus comme des enfants de Dieu. Et désormais, nous pouvons appeler Dieu non pas comme une puissance lointaine, toute puissante, alors c'est vrai, ce sont des attributs, la toute puissance de Dieu, mais voilà ce qui est original dans le christianisme extraordinaire, c'est que cette toute puissance de Dieu ne nous rend pas ce Dieu tout puissant si éloigné que ça, au contraire, sa toute puissance nous le rapproche par son Fils, qui par sa mort et sa résurrection nous entraîne avec lui auprès du Père pour que nous soyons reconnaissants de nous accorder ce nouveau statut de fils. Désormais, donc, nous sommes introduits dans la famille de Dieu et nous devenons à ce titre des héritiers. Et désormais, une intimité vraiment, une intimité dans la relation nous est accordée auprès de Dieu. Et encore une fois, je le dis, aucune religion n'offre ça. Aucune religion ne parle de cette façon-là. Tout en gardant, bien sûr, la distance qui nous séparera à jamais, de toute façon, entre le Créateur et la créature. Nous restons des créatures de Dieu. Mais en parlant d'être introduit dans une famille, je voudrais juste donner un exemple étonnant. C'est dans un village du Népal, près du mont Everest, où près de 80% des filles sont destinées à être vendues dans des maisons closes. Pourquoi ? Parce qu'elles constituent un sous-groupe, une caste la plus basse du pays, le peuple Badi, ça s'appelle comme ça. Et leur religion enseigne que dans une vie passée, ils ont dû accumuler un grand nombre de péchés pour que le karma les punisse. C'est-à-dire l'accumulation de leurs fautes fait que finalement, ils vont se réincarner dans une vie dure, affreuse. Et donc, ils reviennent sur Terre dans cette caste bannie. Les gens ne les aident pas parce qu'ils ne veulent pas empêcher le karma de les punir. Et en conséquence, les filles de cette caste, qui s'appelle Badi, sont parmi les personnes sur la planète qui sont le plus victimes de la traite. La caste dans laquelle sont nées signifie qu'elles sont condamnées, ces filles, à être traitées moins bien qu'un chien, utilisées, vendues et maltraitées. Et c'est là que un ami qui s'appelle Ryan a rencontré Landana, une de ses filles, de 10 ans. Son père avait accepté de la vendre à un bordel indien. Sa mère ne supportait pas l'idée et essayait d'empêcher son mari de vendre sa précieuse fille, mais il ne voulait rien entendre. Il a commencé à battre sa femme, parce qu'elles ne voulaient pas vendre leur fille. Lorsqu'ils l'ont découvert, ils ont agi rapidement auprès des travailleurs sociaux et des forces de l'ordre. Ils ont amené Landana, c'est le nom, dans une maison d'accueil où les filles comme elles sont en sécurité, nourries et aimées. Landana a entendu l'évangile, elle a entendu comment par Jésus nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. C'est là la force de l'évangile. Et pour ces personnes-là, on peut imaginer l'impact que cela peut avoir dans leur vie. Alors, non seulement nous sommes adoptés par le Seigneur et nous rentrons dans sa présence, nous bénéficions de sa présence, et d'ailleurs des prières ce matin l'ont clairement exprimé, mais aussi le Père désormais nous gratifie de sa générosité, puisqu'il est devenu notre Père, il prend soin de nous. Et ses largesses sont inépuisables. C'est ce que nous dit le texte de Matthieu 6, 32. Votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Notre Père qui nous connaît donc bien notre fragilité. Un deuxième texte aussi qui décrit bien cette connaissance que Dieu a de notre situation, pour laquelle il va se porter au secours, c'est le texte du psaume 103, versets 13 à 14, « Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Donc ce Père nous fait grâce dans son immense miséricorde chaque fois que nous venons vers lui. Matthieu 7, verset 11. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alors, on a coutume de rappeler la parole de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Mais un fils est bien plus proche de Dieu qu'un ami, car un enfant est bien plus précieux pour son père, pour sa mère aussi. C'est vraiment un privilège plus grand, car ce statut d'enfant de Dieu implique une relation plus proche, plus intime, et en définitive une relation qui comporte les plus grands privilèges qui soient. Et je vous invite vraiment dans vos temps de prière à vous réfugier dans les bras du Père. Réfugiez-vous dans ses bras. Si vous êtes déçu, si vous vous sentez trahi, réfugiez-vous dans les bras du Père qui ne vous trahira jamais. Il y a des chrétiens qui en sont restés à la compréhension du salut, la régénération, voilà, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Très bien, il faut un commencement à tout. Mais c'est un commencement. Après, il faut grandir dans cette reconnaissance de cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle doit se développer et la compréhension du statut d'adopté doit nous aider à rentrer dans cette relation de confiance avec notre Père. Oui, nous sommes graciés par le juge divin. Mais si nous vivons cette façon de comprendre le salut sans vivre dans la bénédiction de l'adoption, ben finalement nous restons un peu au pied de la croix, nous contemplons celui qui est mort pour nous, nous le remercions pour ce grand salut, nous n'allons pas plus loin, nous nous arrêtons en chemin, nous n'allons pas jusqu'au tombeau vide finalement, où le Christ ressuscité est monté à la droite du Père pour amener à lui tous les rachetés qu'il a sauvés. Et donc il y a des chrétiens qui en restent à cette compréhension assez minimaliste. Ils ne vont pas jusqu'à la résurrection et à l'ascension du Christ qui nous prend avec lui pour nous présenter au Père, pour que nous soyons considérés, reconnus comme des frères, des fils et des filles de Dieu, au même titre que Jésus, dans son humanité glorifiée. Et là, je voudrais qu'on lise ensemble ce texte, d'Hébreux 2, 12 à 13. Le Fils n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. James Packer, un théologien anglais, dit ceci dans son livre « Connaître Dieu ». La vie chrétienne entière doit être envisagée en fonction de l'adoption. La réalité de notre état d'enfant de Dieu doit toujours être au premier plan. Être chrétien, beaucoup de gens se disent chrétiens, hein, il y a une forme de nominalisme dans le christianisme, des gens se disent chrétiens, alors soit de tradition, parce que leurs parents sont chrétiens, soit parce que leur nom est dans un registre d'une confession quelconque, la question n'est pas de critiquer telle ou telle confession chrétienne, soit parce qu'ils sont même peut-être dans un pays dit chrétien, à majorité chrétienne. On parle de l'Europe chrétienne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui, je ne sais plus trop si elle est aussi chrétienne que ça, si on considère le pourcentage des gens qui fréquentent des églises. Mais se dire enfant de Dieu, c'est quand même fort, quand même. C'est fort de café, comme on dit. Enfant de Dieu. Non mais quand même, c'est pas un peu osé ça. Et là du coup on relit ce texte d'Hébreux 2, le Fils n'a pas honte de les appeler ses frères. Pourquoi nous aurions honte de nous appeler enfants de Dieu? Alors je sais qu'enfant de Dieu c'est le nom d'une secte aussi, bon, mettons ça de côté. Oui, nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes dignes d'être appelés enfants de Dieu. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Merci Seigneur. Dans notre façon de prier et d'envisager la vie chrétienne, bien si nous l'envisageons du point de vue de l'adoption, ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus enseigne ses apôtres à prier ainsi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. C'est le principe de l'adoption que Jésus met en avant pour que notre prière soit correctement orientée et inspirée. Notre Père. On pourrait déjà s'arrêter sur ces deux mots. Notre Père. À tous. On n'a pas des pères différents. On n'est pas des enfants illégitimes. Notre Père. Alléluia. Quand vous chantez, on a des chants qui reprennent la parole de Jésus, notre Père. Vous êtes en train de dire que vous vous identifiez à tous ceux qui sont comme vous des enfants de Dieu. De par le temps et de par l'espace. Vous n'êtes pas en train de chanter une belle mélodie pour vous faire plaisir. Notre Père. Ça, c'est puissant, ça. C'est puissant et ça doit renouveler votre foi, ça doit la fortifier. Et c'est pour cela que Jésus dit dans la suite de son enseignement sur la prière, en Matthieu 6, 8, en priant, ne ressemblez pas aux païens qui font des redites mais qui ne sont pas vraiment dans une relation avec Dieu. Car votre Père sait que vous en avez besoin. Autrement dit, quand tu pries, sache que Dieu est là, qu'il est ton Père, que tu es son fils et sa fille, et tu vas voir que ta foi va grandir, être consolidée, fortifiée. Tu pries ton Père au nom du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous la prédication et l'enseignement des Vertes. Dans la façon dont nous nous comportons aussi, ce qu'on appelle l'éthique de vie, eh bien, elle est motivée par cette attitude, ce statut, cette relation que nous avons avec Dieu. C'est ce que veut dire Jésus en Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour plaire aux hommes, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc finalement, ce qui va motiver notre façon de vivre, notre éthique de vie, nos prises de position morale, éthique, eh bien, sera fonction de cette relation que nous avons d'adopter vis-à-vis de notre Père qui est dans les cieux. Pratiquez votre justice. Donc la vie chrétienne doit être envisagée en fonction de l'adoption, car c'est notre Père que nous aimons en priorité. C'est à cause de l'amour que nous portons à notre Père, parce que nous voulons lui ressembler, que nous nous engageons à aimer notre prochain. Matthieu 6, 44, « Aimez vos ennemis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Dans notre service sur terre, c'est aussi la réalité de notre statut d'enfant de Dieu qui oriente et qui dirige nos actions. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Matthieu 5, 16, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il est donc fondamental que la vie chrétienne entière soit vécue dans une compréhension permanente et renouvelée de notre adoption. C'est cette réalité d'enfant de Dieu qui doit toujours être au premier plan. Et cette compréhension de Dieu comme un Père nous permettra de ne pas dévier, alors dans deux sens opposés, de ne pas dévier si nous considérons que nous sommes un enfant par rapport à ce Père, nous ne dévierons pas dans le sens où nous aurions de la présomption, de l'orgueil. Pourquoi ? Parce qu'un fils reste toujours un fils. Il ne sera jamais au-dessus de son Père. Ce n'est pas le même statut. Et donc ça nous ramène aussi à une considération d'enfant de Dieu dépendant de ce Père. D'ailleurs, la Bible emploie souvent cette image quand Paul dit « Vous en êtes encore au lait spirituel », il parle de ce sevrage. Donc voilà, nous pouvons, si nous comprenons dans cette relation d'enfant à un Père céleste, nous ne pouvons développer de la vanité ou de la présomption orgueilleuse. Et différemment, ça dépend des caractères aussi. Nous n'allons pas dévier dans la crainte de ne pas être à la hauteur, de devoir prouver que nous sommes bien dignes d'être son fils ou sa fille. Nous le sommes. Nous le sommes. C'est lui qui nous a adoptés une fois pour toutes dans sa famille. Et je dirais qu'à la différence des familles humaines, qui sont bien sûr faillibles, on n'a pas toujours été corrigé de la bonne façon. Peut-être, inversement, il aurait fallu parfois l'être, et on ne l'a pas été, ou peut-être trop, j'en sais rien. En tout cas, notre Père Céleste n'est pas comme ça, et c'est là où s'arrête, si vous voulez, la limite de l'analogie, évidemment de la comparaison. Donc oui, une crainte respectueuse pour notre Père, mais en même temps, une foi sereine, confiante. Nous sommes dans ses bras. Ça, c'est la foi. Alléluia. Donc, il y a une différence entre l'adoption humaine et l'adoption divine, il faut le dire, effectivement. En adoptant, les parents peuvent faire, par exemple, des différences dans une fratrie et créer, bien sûr, des injustices et donc des frustrations. Dans l'Antiquité romaine, les adoptés étaient essentiellement des jeunes adultes dont on estimait qu'ils seraient aptes à perpétuer dignement le nom de la famille. Donc ils étaient choisis en fonction de ça, s'ils étaient dignes, s'ils avaient le mérite vraiment pour perpétuer le nom. Et donc, s'ils étaient dignes de servir aux intérêts familiaux. Et de fait, donc, on prenait des précautions pour les choisir. Pourquoi ? Parce qu'on allait plus tard leur léguer les biens de la maison. Est-ce que vous pensez que Dieu, notre Père, fait ainsi ? Non. Pourquoi nous a-t-il choisi ? Pourquoi m'a-t-il choisi ? Tiens. Dans ta grâce immense, tu m'as adopté. Moi qui étais... D'ailleurs, souvent, les prophètes le disent au sujet d'Israël. Je t'ai trouvé nu, là, je t'ai pris. Et pourtant... En dépit, souvent les prophètes, en dépit de tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as déshonoré. C'est la grâce de Dieu, merci Seigneur. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Avec notre Père Céleste, l'adoption ne présente pas cette partialité que j'ai décrite tout à l'heure au sujet de l'adoption dans l'Antiquité, ni la notion de mérite ou d'une qualité qui serait intrinsèque à l'adopté pour lequel il aurait été choisi. Pourquoi ? Parce que dans l'Évangile, tous les adoptés partent avec le même désavantage. Vous savez lequel c'est ? Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un pour... Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un pour gagner l'autre. Nous ne pouvons pas penser, puisque nous avons tous le même désavantage, que nous serions adoptés pour une raison humaine précise, si ce n'est l'amour de Dieu, si ce n'est sa grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Aucun adopté ne peut donc avoir, après son adoption, un statut particulier, un privilège supérieur aux autres. Il y a des appels, bien sûr, des vocations, des dons. Mais aucun ne peut se prévaloir de quoi que ce soit, car nous ne sommes pas adoptés en fonction d'une supposée dignité. Mais plutôt à l'inverse, si nous sommes adoptés, c'est à cause de notre indignité. Vous entendez ? Si nous sommes adoptés, c'est à cause de notre indignité. Et quand nous venons à la table du Seigneur, nous n'y venons pas parce que nous serions dignes d'y venir. Nous y venons parce que nous sommes indignes, frères et sœurs. Et nous venons y rechercher la grâce et le pardon de Dieu, tous tels que nous sommes. Les privilèges attachés à notre adoption, eh bien, c'est la fin du texte que nous avons lu qui le décrit, c'est l'héritage. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, l'héritage céleste. L'adoption, donc, nous amène à nous accueillir les uns les autres aussi, puisque nous sommes tous des héritiers en égale dignité, la dignité d'enfants rachetés par grâce et accueilli par le même Père, notre Père, pour nous faire entrer dans la même famille, frères et sœurs, pardonnés, objets tous, chacun, objet de la miséricorde et de l'amour du Père. Lors de la prochaine prédication, nous verrons que l'adoption marque le départ d'une vie nouvelle, puisqu'elle nous introduit dans une relation filiale qui va nous faire découvrir son amour, sa justice, sa sainteté, on l'a déjà abordé un peu, la sainteté de notre Père céleste, ainsi que sa famille, l'Église de Dieu, dans laquelle nous sommes appelés à grandir spirituellement. En conclusion, je voudrais lire le texte de 1 Jean 3, versets 1 à 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire ? Oui ? Bien-aimés, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Ah, tiens, intéressant ça. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui place son espérance en lui se rend pure, comme Jésus-Christ lui-même est pur. Autrement dit, Jean, là, nous place dans une situation où, dès maintenant, effectivement, nous pouvons jouir des privilèges, mais en même temps, nous sommes dans le pas encore. Nous sommes dans le déjà et en même temps dans le pas encore, c'est-à-dire que nous attendons le retour du Seigneur Jésus où nous entrerons alors pleinement dans cet héritage promis, c'est-à-dire que nous le verrons face à face, nous serons transformés. Alors nous n'aurons plus ce poids, cette pesanteur liée à notre situation humaine actuelle dans un corps de chair qui nous limite dans notre connaissance, dans nos œuvres, dans notre compréhension de Dieu. Alors, nous deviendrons, comme le texte le dit, semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et dans cette vision, ce que les théologiens appellent la vision béatifique, bon, la béatitude, si vous voulez, ce bonheur, heureux, les béatitudes heureux, eh bien nous serons délivrés de ce corps de mort. Qui nous délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant, c'est le déjà, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, dès maintenant, une nouvelle aventure commence pour nous, mais cette aventure aura le feuilleton final quand Jésus reviendra, comme nous le dit ce texte, alors nous deviendrons semblables à lui. Amen. Amen.